Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de 993. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Publié en français aux Presses universitaires de France en 1983. Le drame de l'enfant doué est un essai de psychologie et de psychanalyse dans lequel Alice Miller examine les conséquences durables de l'adaptation précoce aux attentes parentales. Le terme « doué » ne désigne pas prioritairement une intelligence exceptionnelle. Il renvoie à l'enfant particulièrement sensible, attentif aux états émotionnels des adultes, est capable de renoncer à ses propres besoins afin de préserver le lien dont il dépend. Miller cherche ainsi à éclairer un paradoxe fréquent des adultes compétents, admirés ou socialement accomplis, peuvent éprouver vide intérieur, dépression, fragilité affective ou sentiment de ne pas être eux-mêmes. Son analyse relie ces difficultés à la mise à l'écart ancienne de sentiments légitimes, notamment peur, colère, indignation et désespoir. L'ouvrage défend la nécessité de reconnaître cette histoire émotionnelle, sans la réduire à une simple plainte contre les parents, afin de retrouver une relation plus consciente à soi. Il constitue un texte influent, mais également discuté, sur les effets de la négligence affective et des violences éducatives ordinaires. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, l'enfant doué comme expert précoce des besoins parentaux, le point de départ du livre est une redéfinition importante du mot doué. Alice Miller ne décrit pas principalement l'enfant à haut potentiel intellectuel, mais l'enfant sensible et éveillé qui perçoit très tôt les manques, les angoisses ou les attentes de ses parents. Dans une relation marquée par la dépendance, cette perception peut devenir une compétence de survie. L'enfant apprend à être calme, utile, brillant, consolant ou irréprochable pour conserver amour et sécurité. Le problème ne réside donc pas dans la sensibilité elle-même, mais dans son emploi au service exclusif de l'équilibre adulte. Les qualités socialement valorisées, comme la maturité, le sens des responsabilités ou la capacité à plaire, peuvent alors masquer un renoncement intérieur. Miller met ainsi en cause une lecture simpliste de la réussite-accomplissement scolaire. Professionnel ou relationnel ne prouve pas qu'une personne a pu vivre librement ses besoins. Cette perspective explique pourquoi certains adultes très adaptés ne savent pas clairement ce qu'ils désirent, tolèrent mal la critique ou recherchent continuellement une validation extérieure. Le drame évoqué par le titre tient à cette dissociation. La personne a développé une grande aptitude à comprendre autrui, mais elle est restée éloignée de son expérience propre. Le livre invite à examiner le coût psychique de cette adaptation plutôt qu'à la confondre avec une force sans conséquence. Deuxièmement, la répression des affects et la perte du vrai soi pour Miller. Un développement affectif sain suppose que l'enfant puisse éprouver et exprimer une gamme complète de sentiments sans perdre la protection de ses adultes de référence. Lorsque colère, peur, jalousie, tristesse ou indignation sont accueillis par le mépris, le déni, la punition ou le retrait affectif, l'enfant ne peut généralement pas contester la relation. Il apprend plutôt à écarter de sa conscience les émotions qui menacent son attachement. Cette répression n'est pas présentée comme un choix volontaire, elle constitue une adaptation à une situation où la dépendance rend la vérité émotionnelle difficilement supportable. Miller nomme vrai soi la part vivante de l'individu qui inclut besoins, limites, affects et perceptions propres. La perte de contact avec cette part ne signifie pas que les émotions ont disparu. Elles peuvent persister sous forme de malaise diffus, de réactions disproportionnées, de symptômes corporels ou de relations répétitives. Le livre insiste sur un mécanisme précis. Plus une personne a été admirée pour son adaptation, plus elle peut avoir du mal à reconnaître ce qu'elle a sacrifié pour l'adopter. La souffrance adulte n'est donc pas seulement attribuée à un souvenir pénible, mais à l'absence ancienne d'un espace où l'expérience de l'enfant pouvait être reconnue. Cette articulation entre conformité extérieure et appauvrissement intérieur est au centre de l'argumentation de Miller. Troisièmement, dépression et grandiosité comme défense contre le vide intérieur. L'ouvrage analyse deux expressions possibles de la coupure avec les sentiments authentiques, la dépression et la grandiosité. La dépression est comprise comme un état pouvant accompagner la perte de contact avec soi. Lorsque l'énergie consacrée à satisfaire une image attendue ne suffit plus à soutenir l'individu. Elle ne se réduit pas à une tristesse ordinaire, elle peut prendre la forme d'un sentiment de vide, d'inutilité ou d'étouffement malgré une existence apparemment réussie. À l'opposé, la grandiosité désigne la nécessité de se vivre comme exceptionnel, invulnérable ou indispensable afin de tenir à distance une fragilité ancienne. Miller ne présente pas ces notions comme des diagnostics automatiques ni comme des explications suffisantes de toutes les souffrances psychiques. Elle souligne plutôt leur fonction défensive possible, préserver une image valorisée de soi lorsque les besoins dépendants, la douleur ou la colère ont été interdits. Cette analyse permet de comprendre pourquoi reconnaissance sociale et sécurité intérieure ne coïncident pas forcément. Une personne peut rechercher sans cesse performance, admiration ou contrôle, non par simple ambition, mais parce que son estime dépend encore de l'adaptation qui a garanti le lien dans l'enfance. La force du livre réside dans son attention au paradoxe entre compétences visibles et insécurité affective. Sa limite est que cette grille, puissante pour certains parcours, ne peut à elle seule rendre compte de la diversité des causes de la dépression ou des conduites défensives. Quatrièmement, retrouver l'histoire affective par l'empathie envers l'enfant que l'on a été, la voie de dégagement proposée par Alice Miller ne consiste pas à effacer le passé, ni à imposer une réconciliation familiale. Elle repose sur la reconnaissance progressive de ce que l'enfant a réellement ressenti et de ce qu'il n'a pas pu comprendre ou dire au moment des faits. Miller accorde une place centrale à l'empathie envers l'enfant que l'adulte a été. Cette empathie rompt avec la tendance à minimiser les humiliations, les négligences ou les exigences excessives en les justifiant par l'époque, les intentions parentales ou les difficultés des adultes. Il ne s'agit pas nécessairement de nier la complexité des parents, mais de ne plus sacrifier la réalité de l'enfant à leur image. Selon cette perspective, des émotions longtemps évitées peuvent être comme des réponses cohérentes à une situation ancienne de dépendance et d'impuissance. La mise en mots, le deuil de ce qui n'a pas été reçu et l'identification des mécanismes de déni permettent alors une relation moins automatique au comportement présent. Le livre ne fournit pas un protocole thérapeutique standardisé. Il propose une orientation clinique et éthique. La guérison exige un témoin capable de prendre au sérieux l'expérience de l'enfant, y compris lorsque cette expérience contredit les récits familiaux rassurants. Un accompagnement professionnel peut être pertinent lorsque ce travail fait émerger une détresse intense, des souvenirs incertains ou des difficultés relationnelles majeures. En dernier lieu, de la blessure intime à la critique des violences éducatives, au-delà des conflits intrapsychiques. Le drame de l'enfant doué porte une critique des pratiques éducatives qui subordonnent l'enfant aux besoins de l'adulte. Miller inclut dans ce cadre non seulement les agressions manifestes, mais aussi les formes ordinaires de manipulation, de dévalorisation, de mensonge, de punition humiliante ou de négligence émotionnelle. Son argument est que la violence devient particulièrement dommageable lorsqu'aucun adulte protecteur ne reconnaît ce qui arrive à l'enfant. Privé de témoins et dépendant de ceux qui le blessent, il peut intérioriser la faute et apprendre à considérer ses propres réactions comme mauvaises. Miller relie cette dynamique à la répétition de comportements destructeurs dans la vie adulte et, plus largement, à la reproduction sociale de la violence. Cette thèse donne au livre une dimension politique et éducative. Protéger l'enfant ne relève pas seulement de la bienveillance privée, mais de la prévention de dommages qui peuvent se transmettre entre générations. Il convient toutefois de lire ce lien avec prudence. Les traumatismes infantiles influencent les trajectoires, sans déterminer mécaniquement qu'une personne deviendra violente ou malade. La contribution spécifique de Miller est de refuser de banaliser ce que l'enfant ressent sous prétexte que certaines pratiques sont traditionnelles ou largement acceptées. Respect, sincérité, écoute des limites et protection constituent dans son approche les conditions concrètes d'un développement qui ne repose pas sur le reniement de soi. En conclusion, le drame de l'enfant doué s'adresse en premier lieu aux adultes qui constatent un écart entre leur adaptation extérieure et leur vécu intérieur, personnes performantes mais épuisées, attachés à l'approbation, incapables d'identifier leurs besoins ou confrontés à une dépression et à un sentiment de vide. Il peut également intéresser les lecteurs engagés dans la réflexion sur l'enfance, les relations familiales, la psychothérapie et les violences éducatives. Son bénéfice intellectuel principal est de déplacer le regard au lieu de demander seulement pourquoi un adulte va mal. Miller examine comment il a appris, enfant, à ne plus sentir ou à ne plus croire ce qu'il ressentait. Cette approche donne une place sérieuse à la négligence affective, souvent moins visible que les violences ouvertes. Sur un plan pratique, le livre peut aider à repérer les réflexes de minimisation, les exigences intériorisées et les formes de loyauté qui empêchent de reconnaître une souffrance ancienne. Il ne remplace ni une évaluation clinique ni un suivi thérapeutique, surtout face à une détresse importante, par rapport à de nombreux ouvrages de développement personnel. Il se distingue par une critique plus radicale de l'adaptation sociale et par son refus de confondre maturité avec obéissance émotionnelle. Par rapport aux textes strictement théoriques de psychanalyse, son langage direct et son attention à l'expérience subjective expliquent sa portée durable. Ses généralisations sur le poids de l'enfance appellent néanmoins une lecture nuancée, attentive à la pluralité des facteurs psychiques et sociaux. Si vous souhaitez soutenir Alice Miller, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.